sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclaves.
Les peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande chaîne de l'histoire.
Décolonisation. Décolonisation.
Tourne et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance, tcha tcha, tous ouïés. Bodipaza, tcha tcha, tout va quitter.
Pierre Aski.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Nelson Mandela, premier président de l'Afrique du Sud après l'apartheid.
Je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs.
Sur France Inter.
Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de Blancs ni de Noirs.
Pour nous accompagner dans ce voyage, dans le temps et dans l'espace, l'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. En 1977, je me trouve à Robben Island, cette île pénitentiaire au large du Cap, en Afrique du Sud. L'homme qui se tient à quelques mètres de moi, une bêche à la main, un bob kaki sur la tête pour se protéger du soleil qui cogne, c'est Nelson Mandela. Il purge ici une peine de prison à vie depuis plus d'une décennie et il fait la grimace. Il est mécontent d'être exhibé à un groupe de reporters. Je suis à l'époque journaliste à l'agence France Presse, stationnée à Johannesburg. Cet épisode de décolonisation est différent des autres, car j'ai vécu de près certains moments clés de cette histoire. En ce mois d'avril 1977, donc, les autorités sud-africaines, le gouvernement de l'apartheid, nous invitent à participer à un événement exceptionnel, sans autre précision. Journalistes sud-africains et une poignée d'étrangers, nous nous retrouvons dans un avion pour Robben Island. Le but des autorités est de répondre à un rapport de l'ONU faisant état de mauvais traitements sur l'île. Mais la règle est stricte. Interdiction de parler aux prisonniers et nos articles seront soumis à la censure préalable. La possibilité de voir, simplement voir, ces hommes qui sont autant de légendes en Afrique du Sud l'emporte malgré le caractère insupportable des conditions. Nous voici donc devant le prisonnier numéro 466-64, Nelson Mandela, dirigeant du Congrès national africain, l'ANC, le principal mouvement nationaliste noir. Nous ne pouvons pas lui parler, mais nous voyons sa minuscule cellule individuelle de 2,1 sur 2,4 mètres. Il y a juste la place pour son lit métallique et une tablette sur laquelle se trouve la photo de sa femme, Winnie, en robe africaine, une Bible, quelques livres. Mandela a été condamné à la prison à vie en 1964 pour sabotage. Et le ministre de la Justice de l'époque, Jimmy Kruger, nous précisera bien à l'issue de la visite de l'île, « Nous ne libérerons jamais Mandela ». En Afrique du Sud, la prison à vie dure toute la vie. Mandela lui donnera tort. Il deviendra le premier président d'une Afrique du Sud débarrassé de l'odieux système de l'apartheid. À l'époque, en 1977, il fallait être bien audacieux pour penser qu'un jour, Mandela pourrait devenir président. Et pourtant, il y a dans le parcours unique de cet homme quelque chose de naturel, de logique. Comme si le fait de naître en 1918 dans la famille royale des Tembou, un des clans de la puissante ethnie Xhosa, lui avait donné de solides racines et l'étoffe des leaders. Depuis la naissance de Rolihlahla Madiba Mandela, le sort des Noirs n'a cessé d'empirer. C'est une longue histoire, plus longue que celle des conquêtes coloniales du reste de l'Afrique. Elle remonte à 1488, lorsque le navigateur portugais Bartolomeu Dias découvre l'extrémité du continent. Les Européens y ont établi une présence depuis plus de 350 ans, contre quelques décennies pour le reste de l'Afrique. Les Néerlandais de la Compagnie des Indes installent un comptoir pour ravitailler les navires. Mais ces premiers occupants prennent racine et proclament, au XVIIIe siècle, « Nous sommes des Africains de cette terre d'Afrique ». L'histoire est différente à partir de ce jour-là. Le système d'apartheid, la ségrégation raciale institutionnalisée, n'est instauré qu'en 1948, à la victoire des Afrikaners. Mais les Anglais, au pouvoir jusque-là, n'ont pas attendu 1948 pour installer les premières lois ségrégationnistes. Ainsi, en 1913, le Native Land Act, la loi sur les terres indigènes, confine la majorité noire de la population sur 7,3% de la surface du pays, tandis que la minorité blanche s'octroie la majorité des terres. Sol Platier, un journaliste et nationaliste noir du début du XXe siècle, écrit un livre puissant et dénonciateur. Il espère susciter un sursaut, en vain. Il écrit...
En se réveillant le vendredi matin, 20 juin 1913, l'indigène d'Afrique du Sud s'est trouvé dans la position non pas tant d'un esclave, mais d'un paria sur sa terre natale.
Le système de domination raciale se met en place très tôt, la résistance aussi. Le Congrès national africain, le parti que dirigera plus tard Nelson Mandela, naît en 1912. C'est un parti de notables noirs. Il faut attendre la génération de Mandela pour voir surgir une résistance active. Le jeune prince a été admis en 1939 à l'université de Fort Hare, la seule institution pour noirs du pays. Sur la plus vieille photo qu'on lui connaisse, il est vêtu d'un costume croisé gris, confectionné pour son premier jour. Il y rencontre certains des compagnons de toute la vie, comme Oliver Tambo, qui dirigera l'ANC en exil pendant que Mandela était en prison. Fort Hare est un lieu de ségrégation, mais c'est là aussi que, paradoxalement, cette génération s'initie à la politique. En 1943, Nelson Mandela adhère à l'ANC, le déjà vieux Parti nationaliste noir. En 1948, le nationalisme afrikaner remporte les élections réservées aux Blancs. Son programme, l'apartheid, un mot Afrikaans qui signifie séparation. La principale conséquence, c'est surtout le système d'apartheid qui se met en place. Séparation des peuples dans tous les domaines, avec les Blancs au sommet de la hiérarchie raciale. Trois ans plus tard, en 1951, Nelson Mandela et Oliver Tambo sont diplômés en droit. Ils deviennent les premiers avocats noirs de Johannesburg, la grande métropole qui a grandi grâce aux mines d'or. Mandela et Tambo, ils sont fiers de la plaque sur la porte de leur cabinet d'avocat. Une nouvelle vie commence pour eux, et pour le pays. Nous sommes avec l'historien Hamzat Boukhari Yabara qui nous accompagne dans cette traversée. Nelson Mandela grandit dans l'Afrique du Sud d'avant l'apartheid qui a été instauré en 1948. Mais la ségrégation existe déjà. Quelle est la différence ?
Alors, la différence, c'est qu'en 1948, lorsque le Parti nationaliste prend le pouvoir, il met véritablement en place une politique au point de changer le nom. Donc, on donne un nom en Afrikaans. Donc, on spécifie vraiment la ségrégation qui va être mise en place en Afrique du Sud. Et on va développer tout un arsenal de lois. Il y en avait certes avant 1948, mais celles d'à partir de 1948 vont être beaucoup plus drastiques, comme notamment l'interdiction officielle des mariages mixtes, également la nécessité de s'enregistrer du point de vue de l'administration par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa race, et la délivrance également de passeports internes qui vont contrôler les déplacements en interne. Donc il y a, à partir de 1948, une véritable politique fondée spécifiquement sur la ségrégation, alors qu'avant 1948, on était beaucoup plus sur des pratiques sociales, alors que l'apartheid met vraiment en place un système et un régime voué à produire ce qu'on appelle le développement séparé, et donc une logique de diviser les différents groupes raciaux sud-africains et de faire en sorte qu'ils ne se mélangent pas.
Hamzat, l'ANC est l'un des partis les plus anciens, sinon le plus ancien du continent africain. Or, il a été longtemps un parti de notables modérés. Comment peut-on expliquer cette modération dans un tel contexte ?
Alors, lorsque l'ANC est créé en 1912 à Bloemfontein, il est créé principalement par une petite élite accompagnée de chefs traditionnels qui est plutôt conservatrice et qui va, dans les années 20, 30 et début des années 40, plutôt se baser sur le dialogue et des pétitions vis-à-vis du système d'administration sud-africain. Et donc, on est beaucoup plus dans une approche, je dirais, de collaboration avec les autorités et de l'idée que ce système-là peut se réformer. À partir des années 40, notamment après la Seconde Guerre mondiale et la victoire du Parti nationaliste, cette ligne-là ne peut plus tenir et elle va se radicaliser avec l'apparition notamment de la Ligue des Jeunes de l'ANC, créée autour des années 43-44, qui va apporter un agenda, je dirais, beaucoup plus radical, fondé sur la contestation, sur les grèves, les boycotts, sur tout ce qui relève de la désobéissance civile, en parallèle également avec le modèle indien, puisque l'ANC évolue en parallèle avec le Congrès national indien, donc une forte diaspora indienne. Et donc les combats menés entre l'Inde et l'Afrique du Sud font un peu écho à cette époque-là.
Alors Mandela, Tambo apparaissent à cette époque. Cette nouvelle génération vient donc à la politique après la guerre. Qu'est-ce qui la caractérise ?
Alors, ce qui caractérise cette nouvelle génération, c'est d'une part qu'elle est éduquée généralement dans la même université, Fort Hare, et qu'elle est de plus en plus intéressée par le droit. On n'est plus tellement sur les précédents profils qui étaient plutôt tournés vers l'anthropologie ou les langues. Là, on est vraiment vers le droit. Et donc, Mandela et Tambo vont ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud et vont vraiment mettre en avant la question de la bataille juridique, tout en mettant également en avant la question des droits économiques et sociaux. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à cette époque-là, notamment dans les années 50, l'ANC est quand même présidé par Albert Luthuli, qui est un pacifiste. Et il y a aussi ce conflit de génération entre la Ligue des Jeunes de l'ANC, incarnée par Mandela et d'autres, et cette ancienne génération, avec toujours l'idée d'être un peu plus radical que les précédents, parce qu'on estime que la précédente formule de résistance n'a pas fonctionné.
Les années 50 sont une décennie décisive. L'apartheid se met en place méthodiquement. Un arsenal de lois dans tous les domaines, y compris l'interdiction des relations sexuelles interraciales. L'espace de mixité toléré avant la guerre est condamné. À Johannesburg, le quartier de Sophiatown est l'un des rares lieux de rencontre entre blancs et noirs. Clubs de jazz, bars, restaurants. On y croise souvent Nelson Mandela, qui se mêle aux blancs éclairés. Le quartier sera détruit à l'issue d'un long combat et ses habitants expulsés. Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine qui finira par s'exiler, consacre une chanson à cet épisode qui marque les mémoires. Bon, 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 bon.
Oh, Décolonisation. Pierre Aski. Sur France Inter.
Nelson Mandela est prêt à relever le défi de ce racisme institutionnalisé. Il a participé à la création de la Ligue de la Jeunesse de l'ANC, plus radicale que les leaders historiques du Parti nationaliste. Il a à ses côtés Walter Sisulu, qui sera son compagnon de prison, et Oliver Tambo, l'ami avocat avec lequel il a ouvert son cabinet. Ils poussent à la radicalisation de l'organisation et font élire à la présidence du parti le futur prix Nobel de la paix, Albert Lutuli. En 1952, l'ANC passe à l'action. Il lance une campagne de désobéissance civile, une méthode de lutte non violente inspirée par le Mahatma Gandhi. Jeune avocat, Gandhi a vécu en Afrique du Sud pendant 21 ans, à partir de 1893. L'activisme de Nelson Mandela finit par provoquer la colère des autorités. Il est arrêté une première fois en 1956 et jugé pour haute trahison avec 156 autres responsables anti-apartheid. L'avocat qu'il est devient le porte-parole des accusés. L'acquittement tombe 4 ans plus tard. Nelson, homme athlétique d'1m80, boxeur à 16 heures, rencontre Winnie. Il a été marié une première fois à Evelyn Massé, mais il s'en éloigne quand elle devient témoin de Jéhovah. Avec Winnie, une jeune infirmière de 16 ans de moins que lui, c'est le coup de foudre. Le couple se marie en 1958. Avec le temps, la politique et la séparation forcée entameront leur passion, nous le verrons plus tard. La décennie turbulente s'achève dans un climat de confrontation. Le 21 mars 1960, le Congrès panafricain, une organisation dissidente de l'ANC, organise dans la cité dortoir de Sharpeville, près de Johannesburg, une marche pacifique contre les passes. Il s'agit de passeports intérieurs imposés aux Noirs, qui limitent leurs mouvements à leur lieu de résidence et de travail. Le pass est vécu comme une discrimination majeure. Quelques milliers de manifestants sont réunis ce jour-là et certains brûlent publiquement leur pass. La police ouvre le feu. On relève 69 morts, 180 blessés, pour la plupart touchés dans le dos. Le choc est immense en Afrique du Sud et dans le monde. Après ce jour sinistre, les émeutes éclatent dans tout le pays. L'ANC et le PAC sont interdits. Des milliers de personnes sont arrêtées. L'état d'urgence est proclamé.
Après les échauffourées de Sharpeville, où 70 Africains tombèrent sous les balles de la police, la campagne des Noirs d'Afrique du Sud s'amplifie contre les laissez-passer que veulent leur imposer les autorités.
C'est un tournant majeur pour le nationalisme noir. Il est contraint de plonger dans la clandestinité. Sharpeville marque la fin de la non-violence. Des dizaines d'attentats sont commis dans les 2 années suivantes. Des cibles symboliques pour la plupart, sans faire de victimes. Mandela nargue les autorités. Il apparaît ici ou là pour prendre la parole en public, avant de disparaître de nouveau. Il se paye même le luxe de donner une interview en 1961 à la chaîne de télévision britannique ITN. Je lui ai demandé ce que les Africains souhaitaient.
Les Africains exigent le suffrage universel sur la base « un homme, une voix » et l'indépendance politique.
Mais à trop tenter sa chance, il finit par être piégé. Le 5 août 1962, Nelson Mandela circule en voiture dans la province du Natal. Il est arrêté par la police qui le traque depuis des mois. Il est jugé une première fois pour avoir quitté illégalement le pays, 5 ans de prison. L'année suivante, la police capture l'état-major clandestin de l'ANC et de sa branche militaire. Le coup de filet s'abat sur une ferme située à Rivonia, non loin de Johannesburg. Mandela rejoint alors ses camarades sur le banc des accusés. Subversion, complot, trahison, c'est le déclenchement de la lutte armée par l'ANC qui est jugé en 1963. C'est un procès historique. Les 10 accusés risquent la peine de mort. Ils auront la perpétuité. 10 hommes, 8 noirs dont les plus connus sont Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, un indien, Ahmed Ratadra, et un blanc, Dennis Goldberg. Les 9 premiers sont envoyés à Robben Island, tandis que le blanc est incarcéré à Pretoria. Même dans la répression, l'apartheid est la règle. Au cours du procès, Mandela assure sa propre défense. Après tout, il est avocat. Sa plaidoirie finale reste un des textes les plus forts de l'histoire de la lutte contre l'apartheid, et en particulier la fin qui résume sa philosophie.
Toute ma vie, j'ai combattu contre la domination blanche. Et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai adopté pour idéal une société démocratique et libre où tout le monde vivrait ensemble dans la paix et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère voir se concrétiser. Mais monsieur le juge, s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir.
Ces dernières paroles de Mandela ferment une page d'histoire. Les dirigeants nationalistes sont en prison, en principe pour le reste de leur jour. La répression a mis fin aux protestations dans le pays. Hamzat Boukhari Yabara, vous êtes historien, auteur d'une histoire du panafricanisme. Alors Mandela émerge dans ces années 50, qui sont absolument décisives en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui, selon vous, en fait le dirigeant qu'il devient ?
À mon avis, Nelson Mandela déjà a été formé pour occuper le rôle qu'il a tenu. Il a un historique de chef traditionnel, de prince. Il a également une capacité à comprendre les positions opposées les unes aux autres. Et donc je crois qu'il apparaît très rapidement comme celui qui peut le mieux fédérer à la fois les générations et en même temps les priorités du point de vue des luttes. Enfin, c'est un homme qui, visiblement, a un charisme très fort, dont son éloquence, dont son apparence, dont sa manière également de traiter les plus faibles. Et je pense que c'est tout cela qui en a fait la figure qui a un peu électrisé, électrifié et fait converger le mouvement de l'ANC, notamment la jeunesse qui va prendre le pouvoir dans les années 50 au niveau de l'ANC.
L'ANC de Mandela a une approche non raciale, comme on l'a entendu dans la plaidoirie de Nelson Mandela, tandis que le PAC de Sobukwe se veut panafricaniste. Expliquez-nous la différence. Qu'est-ce qui les oppose ?
Alors, ce qui les oppose, c'est une divergence de vue par rapport à la Charte de la Liberté qui a été élaborée en 1955, qui promeut effectivement une Afrique du Sud multiraciale. Et très rapidement, le PAC, le Pan-African Congress, qui est en fait une scission de l'ANC, estime qu'il faut avoir une approche beaucoup plus radicale, beaucoup plus révolutionnaire vis-à-vis notamment du pouvoir blanc. Et Sobukwe fait le vœu, fait le pari de chasser en 4 ans le pouvoir blanc. Et donc le PAC va radicaliser le mouvement. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est le PAC qui a aussi permis à Nelson Mandela d'apparaître comme une figure modérée, puisque à cette époque-là, Mandela était lui aussi un petit peu radical. Mais le PAC, il l'est beaucoup plus, à tel point que c'est eux qui vont lancer la campagne de défiance et notamment la marche qui va aboutir au massacre de Sharpeville le 21 mars 1960 et à la mise en place d'une première organisation de lutte armée. Mandela, à cette époque, est sur une position moins radicale et plus tard, l'ANC va également lancer son propre mouvement de lutte armée, ou Umkhonto we Sizwe, avec cette idée que Mandela est capable de reconnaître à ses adversaires les points gagnants et de récupérer la radicalité de l'adversaire pour, d'une certaine manière, remporter la bataille par la suite.
Après le procès de Rivonia et donc la condamnation de Mandela, les Blancs d'Afrique du Sud peuvent se croire en sécurité pour longtemps. L'Afrique semble avoir perdu la partie, n'est-ce pas ?
Alors c'est tout à fait paradoxal puisque en 1960, on a une vague d'indépendance qui arrive sur le continent africain. L'apartheid va un peu à rebours de l'histoire de l'Afrique. On est sur une histoire de décolonisation et là, de manière totalement anachronique, on voit apparaître un régime qui se solidifie, qui prend des assises au niveau de l'ensemble de l'Afrique australe, qui crée un bloc de protection. Et effectivement, au début des années 60, après les procès, toutes les grandes figures sont soit emprisonnées à vie, soit en exil, on a le sentiment que le régime sud-africain, qui repose quand même sur une base militaire et économique particulièrement solide, est déterminé à rester assez longtemps en place.
Exilé, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela participe à la campagne mondiale en faveur de Mandela avec ce titre des années 80, « Bring him back home »,« Ramenez-le à la maison ». Dans le refrain, il rêve de voir Nelson Mandela marcher à Soweto avec Winnie à son bras.
Pierre Aski sur France Inter.
À Robben Island, où Mandela et ses camarades sont envoyés purger leur peine de prison à vie, la vue est exceptionnelle. L'une des plus belles au monde. La montagne de la Table qui surplombe le cap. Mais pour les prisonniers, ce sont les travaux forcés, casser des cailloux au soleil dans une discipline de fer. Comment tient-on le choc dans un tel environnement ? D'abord, la solidarité entre les prisonniers s'organise. Et puis, il y a le lien épisodique, rare et filtré, avec les familles restées sur le continent. Dans une de ses lettres à Winnie, en 1970, Nelson Mandela lui parle de sa dernière visite. Par hasard, en descendant au parloir...
le 7 novembre, j'ai pu voir le bateau par lequel tu arrivais entrer gracieusement au port dans un nuage de vapeur. Il était très beau avec ses couleurs vives. Même à cette distance, il semblait l'ami de prisonnier. Et à mesure qu'il approchait, j'ai senti une certaine tension m'envahir. Tu sais bien pourquoi. J'ai pu également le voir repartir vers le continent. Même s'il conservait tout son éclat, la beauté que j'y voyais quelques heures auparavant n'était plus là. Je le trouvais à présent grotesque et inamical. Alors qu'il s'éloignait lentement en t'emportant à son bord, je me suis senti seul au monde. Les livres qui emplissent ma cellule, qui m'ont tenu compagnie pendant toutes ces années, semblaient muets, dénués de réponses. Ai-je vu mon amour pour la dernière fois ? Telle était la question lancinante qui ne cessait de me hanter.
Les années passent, le contexte change. Et loin de Robben Island, le sang coule encore. le 16 juin 1976, les lycéens noirs de Soweto, l'immense cité dortoir aux portes de Johannesburg, manifestent. La police tire. Il y a des dizaines de morts. La tragédie se répète le lendemain. L'onde de choc est mondiale. J'étais à Soweto le troisième jour, près du lycée d'Orlando, où les jeunes élèves faisaient face à des policiers suréquipés. Soudain, un groupe d'adultes se présente, un comité des parents noirs, constitué dans la nuit, qui plaide l'apaisement. Le chef de la police les renvoie brutalement. Une femme sort de la délégation et fait face aux policiers. Elle lui lance d'une voix forte. Vous savez qui je suis ?
Vous savez qui je suis ?
Je suis la femme de Nelson
Mandela. Femme de Nelson Mandela.
C'est Winnie Mandela qui brandit comme une arme le nom de son prisonnier de mari. Je suis témoin de cette scène et je n'en reviens pas. En effet, en 1976, ce nom ne fait plus frémir les autorités. Et pourtant, la révolte de Soweto marque, de fait, le début du compte à rebours. Le début de la fin de l'apartheid est enclenché, même si personne ne le réalise alors. Avant d'en arriver là, il y aura des morts par milliers, des protestations et des funérailles, des chants de combat et des larmes. Mais plus rien n'arrêtera le réveil de la majorité noire. En 1976, le héros des jeunes n'est pas Nelson Mandela. La nouvelle génération le connaît peu. La référence, c'est Steve Biko, le leader de la conscience noire. Un mouvement autant qu'une philosophie. Ce jeune dirigeant charismatique est torturé à mort dans un commissariat de Port-Elizabeth. Il avait 30 ans. Ces funérailles massives marquent un tournant dans la mobilisation des Noirs. J'étais présent dans sa ville natale de King Williamstown, et c'est l'un des moments les plus émouvants auxquels j'ai pu assister. Le cercueil de Steve Biko, sur lequel étaient gravés deux poings serrés brisant une chaîne, mit plus d'une heure à traverser la foule qui se pressait pour un dernier adieu. Le film Cry Freedom de Richard Attenborough, sorti en 1987, fait revivre ce moment exceptionnel.
We are here to mourn one of the great men of Africa. Amanda!
Dans les années 80, l'ANC s'impose de nouveau comme la principale force politique. Mandela apparaît comme un porte-étendard. Sa femme Winnie est là pour garder la flamme vivante. Activiste à part entière, elle est exilée par les autorités dans un village de l'État libre d'Orange. C'est un peu la Sibérie sud-africaine. Quelques jours après son arrivée avec ses filles, les habitants noirs du village lèvent le poing à son passage. Winnie est indomptable.
Mandela. All power to the people. All power to the people. Amanda. Awetu.
Winnie Mandela expliquant le sens du slogan Amanda Awetu, ce qui signifie le pouvoir au peuple.
And killed to the extent that the state feared.
Les townships d'Afrique du Sud s'embrasent. L'état d'urgence est décrété à nouveau, comme en 1960. L'écho des luttes sud-africaines est entendu à l'extérieur.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Quand on est noir et qu'on vit dans un pays où, à cause de la couleur de sa peau, on n'a pas le droit de voter, on ne peut que crier de joie en apprenant que le prix Nobel de la paix est donné à Monseigneur Desmond Tutu, évêque anglican noir, qui depuis des années se bat dans son pays contre l'apartheid, la ségrégation raciale institutionnelle d'Afrique du Sud.
Dans ses sermons, Desmond Tutu avait toujours une pensée pour Mandela et les prisonniers politiques. Chaque dimanche, j'allais l'écouter à l'église Regina Mundi de Soweto. Des prises de parole très politiques face à une foule enflammée. Le pays devient progressivement ingouvernable. Plongé dans un cycle infernal de protestations, répression. À l'étranger, la campagne anti-apartheid devient la cause d'une génération. Elle se concentre autour de la libération de Nelson Mandela. En 1988, un concert géant est organisé au stade de Wembley à Londres pour les 70 ans du leader noir. C'est sans précédent.
Sur scène, l'affiche la plus prestigieuse qui soit. Tout le monde du pop et du rock est présent. Pendant 10 heures, 72 000 spectateurs qui ont payé 250 francs leur place, mais aussi plusieurs millions de téléspectateurs vont suivre l'événement musical de l'année.
À Pretoria, la dégradation de la situation place le pouvoir blanc devant un choix difficile. Soit une guerre civile éclate et les blancs risquent de tout perdre, soit ils tentent une sortie négociée, un compromis historique. Le président nationaliste afrikaner Peter Botha, surnommé le Grand Crocodile, est un inflexible défenseur de l'apartheid. Il est poussé de fait vers la sortie. Il est remplacé par un homme plus souple, Frédéric de Klerk, élu par les Blancs en 1989. La guerre froide est sur le point de se terminer, le monde change. Tout va très vite. Nelson Mandela n'est déjà plus à Robben Island. Il est dans la prison de Portsmouth, au Cap, dans de meilleures conditions. Les tractations ont commencé, officieusement, et ensuite officiellement. Puis, coup de théâtre, Frédéric de Klerk, le 10 février 1990.
Je suis maintenant en mesure d'annoncer que Nelson Mandela sera libéré demain, dimanche, vers 15h, à la porte de la prison Victor Verster.
La libération de Nelson Mandela fait partie de ces événements qui scotchent des centaines de millions de téléspectateurs devant leur télévision partout dans le monde. Un moment inoubliable quand ce géant septuagénaire sort de 27 ans de détention et marche libre en tenant la main de sa femme Winnie. Elle lève le poing, il se contente d'un salut un peu gauche, il émerge enfin d'un si long tunnel. Dans son autobiographie, Nelson Mandela raconte ce tournant de sa vie et de celle de son pays.
Quand je fus au milieu de la foule, je brandis mon poing droit et il y eut une clameur. Alors que je franchissais enfin ses portes, j'eus le sentiment, même à 71 ans, que je commençais une nouvelle vie. Mais 10 000 jours d'emprisonnement étaient enfin terminés.
Nelson Mandela parvient enfin à l'hôtel de ville du Cap. Il apparaît au balcon pour prononcer un discours. La foule est dense et bruyante.
Mes chers amis, chers camarades et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous.
Les Sud-Africains ont en face d'eux l'homme dont ils ont été privés pendant 27 ans et dont une image mythique a été construite. La romancière blanche engagée Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature en 1991, raconte le Mandela fantasmé et le Mandela réel. Il y avait les photographies jaunies d'un grand jeune homme aux yeux souriants.
Il y avait les photographies jaunies d'un grand jeune homme aux yeux souriants et aux cheveux séparés par une raie désuète.
et il y avait la vision du héros générique, notre Che Guevara, sinon notre Messie, représenté en couverture du Time en portrait robot. Et puis est sorti de prison un homme qui ne ressemblait à aucune de ces représentations. L'homme véritable, au visage sculpté et dessiné par un courage constant de 30 années, par les marques d'une incroyable autodiscipline, d'une pensée profonde, d'une souffrance et d'une foi inébranlable en les exigences de la dignité humaine. Un visage impressionnant.
La libération de Nelson Mandela est un préalable, mais ne règle rien. L'Afrique du Sud continue de s'enfoncer dans la violence. Les Zoulous, premier groupe ethnique d'Afrique du Sud, voient d'un mauvais œil l'émergence de Mandela, prince de l'ethnie Xhosa. Leur leader, le chef Buthelezi, promeut une troisième voie, distincte de l'ANC. Les milieux sécuritaires blancs attisent cette rivalité ancestrale. Des affrontements éclatent dans les townships. Les morts se comptent par milliers. La situation menace d'être incontrôlable. La passivité des forces de l'ordre est sidérante. Libre, Nelson Mandela doit affronter une autre épreuve, Winnie. Pendant les années de prison de Nelson, son épouse a été une activiste courageuse et sans entrave. Tout le monde le reconnaît. Mais elle est aussi un électron libre, incontrôlable, y compris par ses propres camarades. Ça passait en période de combat politique, ça commence à poser un sérieux problème à l'approche de la libération de son mari. Winnie a créé sa propre milice, le Mandela Football Club. Ses jeunes lui sont dévoués. Ils font progressivement régner la terreur autour d'elle. Un jeune noir est kidnappé et trouve la mort en 1988 pour s'être opposé à eux. Une affaire accablante qui arrive devant la justice en 1991. Winnie accuse ses camarades de l'ANC de mener une cabale contre elle, mais les faits sont là. Nelson Mandela refuse initialement de lâcher sa femme par loyauté pour ce qu'elle a enduré. Mais les dégâts politiques, ajoutés aux nombreuses rumeurs d'infidélité qui la suivent à la trace, rendent la coexistence impossible. Le 13 avril 1992, Nelson Mandela, entouré de ses deux plus vieux camarades, Walter Sisulu et Oliver Tambo, annonce leur séparation à la presse. Mesdames et messieurs, j'espère que vous compatirez à la peine que je ressens.
J'espère que vous compatirez à la peine que je ressens.
Conclut le vieil homme blessé. Le divorce est finalement prononcé en 1996. France Inter, Patrice Bertin.
Nelson Mandela sera libéré de sa femme demain.
La voie est ouverte pour la première élection au suffrage universel en Afrique du Sud. One man, one vote. Un homme, une voix. C'était le slogan, le rêve de la majorité noire. C'est une réalité le 27 avril 1994. Les images de cette journée sont inoubliables. De longues files d'attente se forment dans tout le pays. Des hommes et des femmes, noirs, métis et indiens, qui votent pour la première fois. L'émotion est présente, la tension aussi. Mais les prophéties sombres sont contredites par l'enthousiasme des 23 millions d'électeurs. Le résultat est sans appel. L'ANC de Nelson Mandela remporte 62% des voix. De Klerk tend la main à Mandela le soir de sa victoire, tandis que le chef de l'ANC plaide auprès de ses partisans pour que la majorité n'inquiète pas les minorités. L'heure est à la réconciliation. À 75 ans, le 10 mai 1994, avec une émotion palpable, l'ex-prisonnier 466-64 prête serment.
Nelson Mandela.
Moi,
Nelson Rolihlahla Mandela, je jure solennellement d'être fidèle à la nouvelle République d'Afrique du Sud, avec l'aide de Dieu.
Nelson Mandela se donne pour principale mission de consolider la transition pacifique et démocratique. Il puise dans l'immense capitale sympathie qui entoure le miracle sud-africain. Il devient le principal ambassadeur de son pays. Ses chemises en batik coloré sont désormais sa signature. Sa présidence est un One Mandela Show. Mais Madiba est un homme seul. La présidence l'isole, il n'a pas d'amis. Ses vieux camarades disparaissent, comme Oliver Tambo, mort en 1993, et il a une famille avec laquelle il n'a jamais vécu et que la séparation avec Winnie accable et divise. Le septuagénaire tombe de nouveau amoureux. Il trouve le réconfort auprès de Gracia Machel, la veuve de l'ancien président du Mozambique, Samora Machel. Gracia a 27 ans de moins que Nelson et partage avec le leader sud-africain un long engagement dans les luttes de libération en Afrique australe. Ceux qui ont tué mon mari,
ceux qui ont tué mon mari sont les mêmes que ceux qui vous ont privé de liberté,
dit-elle au futur président lors de leur première rencontre. Fraîchement divorcée, Mandela l'épouse en 1997. Gracia l'accompagne jusqu'à ses derniers jours. Le grand chantier du quinquennat reste la réconciliation entre Sud-Africains après l'apartheid. Une jolie trouvaille marketing, la nation arc-en-ciel, lui permet de dessiner une Afrique du Sud idéale, débarrassée du racisme. Mais Mandela n'est pas naïf. Lorsque je l'interviewe pour Libération, peu après sa sortie de prison, il est très clair. Il faudra pas mal de temps,
Pour éliminer ses idées. L'apartheid est mort légalement, mais dans la pratique, il sera toujours là.
L'autre affaire majeure dans les coulisses est la succession du grand homme. Mandela a décidé de faire un mandat unique, un exemple quand trop de dirigeants s'accrochent au pouvoir. Il penche pour Cyril Ramaphosa. Ce jeune activiste de l'intérieur a joué un grand rôle pendant la lutte contre l'apartheid. Mais la vieille garde de l'ANC fait pression pour que le poste revienne aux historiques et à un dirigeant de l'extérieur. Un homme réunit ces deux qualités, Thabo Mbeki, fils d'un compagnon de Mandela à Robben Island. Dépité, Ramaphosa se lance dans les affaires. L'ANC ira plus tard le chercher pour sortir d'une période de confusion. Il devient président en 2018. Nelson Mandela, quant à lui, termine son mandat en 1999. Il a la stature d'un géant planétaire. Aucun dirigeant politique ne peut rivaliser avec lui. Il consacre ses années suivantes à de grandes causes. À 85 ans, en 2004, Nelson Mandela annonce finalement qu'il se retire de la vie publique. Sa santé décline. Le président Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013.
Our nation, notre nation has lost, a perdu le plus grand de ses enfants. Et notre peuple a perdu un père. Lost a father.
Nelson Mandela a droit à des obsèques nationales dans le village de Chunu, près de son lieu de naissance. Mais l'hommage est mondial. Tous les grands de ce monde se prestent à ses funérailles, suivis en direct par des centaines de millions de personnes. Dix ans après sa disparition, le bilan est plus contrasté que cet unanimisme. Si l'Afrique du Sud est restée fidèle à sa constitution démocratique, elle n'a pas tenu ses promesses de réduction des inégalités. La corruption a ruiné la crédibilité de l'ANC. Ses successeurs ne se sont pas montrés à la hauteur de l'héritage. Mais surtout, une partie de la jeunesse, ceux qu'on appelle les « born free », nés dans la liberté, est sévère avec Madiba. Elle lui reproche d'avoir trop cédé aux Blancs, d'avoir renoncé à ses idéaux révolutionnaires. Le long chemin de Nelson Mandela vers la liberté, pour reprendre le titre de ses mémoires, reste néanmoins un parcours exceptionnel. L'exemple rare d'un homme qui s'est montré capable de se battre pour ses idéaux et d'en payer le prix fort, mais aussi de pardonner et de se réconcilier avec ses ennemis d'hier. Un homme avec ses failles et ses fragilités assumées. Comme l'écrit son biographe Anthony Sampson,
C'est plus pour l'intégrité de l'homme que par le mythe du surhomme que son histoire a fasciné le monde.
Nous retrouvons l'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur de Africa Unite. Quel est selon vous le principal héritage de Mandela ?
Le principal héritage de Mandela, pour moi en tant qu'historien, c'est son autobiographie. Je pense que c'est très important qu'il ait laissé une propre lecture de son propre parcours qui nous permet de le comprendre. Qui permet également de le nuancer, puisque lui-même disait qu'il n'était pas un saint, qu'il a commis des erreurs. Et je pense que c'est très important que lui-même ait eu cette humilité de reconnaître qu'il n'était pas parfait. Et ça se voit également dans les circonstances dans lesquelles il a quitté le pouvoir après un seul mandat. Donc pour moi, c'est une leçon de sagesse, de connaissance et d'humanité qu'il nous laisse.
Une partie de la jeunesse lui reproche aujourd'hui d'avoir fait trop de concessions aux Blancs, et en particulier sur leur pouvoir économique, sur les terres. Avait-il le choix ?
Alors là aussi, je pense qu'il avait le choix et qu'il a fait le choix de la politique qu'il a menée. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la possibilité de mieux négocier ou de négocier différemment les conditions de sa libération de prison. Et lui-même disait qu'il sortirait lorsque les conditions seraient réunies. Deuxièmement, au moment donc du démantèlement de l'apartheid, il y a un risque de guerre civile très fort et des tendances extrémistes comme celle de Boutelesi veulent justement l'embarquer dans une logique de guerre civile et il fait un autre choix. Et enfin, vis-à-vis de l'appareil économique, la situation a été en partie décantée par le tragique assassinat de Chris Hani.
Chris Hani, le leader de la branche armée.
Exactement, qui était plus sur des tendances communistes. Et le fait que le système économique sud-africain ne pouvait être démantelé du jour au lendemain en raison des pressions des multinationales, mais également de la période des années 1990 qui est marquée quand même par une mondialisation néolibérale. Donc j'ai tendance à penser que Mandela aurait pu faire d'autres choix. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il en avait réellement la force ? Est-ce qu'il en avait réellement l'envie ? Puisqu'on voit bien que c'était quand même un homme fatigué qui sort de prison et qu'il a accompli ce pourquoi il était entré en politique dans les années 50, c'est-à-dire aboutir à l'égalité raciale.
Alors le personnage de Mandela, 10 ans après sa mort, reste une icône absolument incontournable dans le monde entier. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que déjà ça a été le plus célèbre prisonnier politique de son époque. Il s'intègre à l'histoire très particulière de l'Afrique du Sud, qui est une histoire raciale, coloniale, violente, très particulière. Et aussi, il a quand même eu une fin très intéressante, puisqu'il s'est retiré du pouvoir et il a continué à œuvrer sur un certain nombre d'actions visant à rendre le monde, entre guillemets, meilleur. Il s'est engagé sur des causes qui montrent que cet homme-là avait vraiment à cœur de prendre soin de l'humanité. Et je pense que c'est ça qui en fait une figure, je dirais pas lisse, mais en tout cas une figure de conciliation, une figure très intéressante, qui reste effectivement un modèle aujourd'hui en termes de vision politique, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais je pense pour l'ensemble du monde.
Merci Hamzat.
Thank you. God bless you. Thank you.
En 1999, le chanteur Johnny Clegg interprète en concert à Francfort Assi Bonanga. Nous attendons toujours de voir quelqu'un comme Mandela, une chanson culte. Soudain, Nelson Mandela apparaît derrière lui en faisant quelques pas de danse. La surprise est totale. La foule lui réserve une ovation. C'est ça aussi, Nelson Mandela.
Let's just repeat it.
Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Stagiaire, India Venmani. Documentation, Anne-Lise Signoret, Pierre Pinault et Joséphine Lafaille. Lecture, Esa Botto. Prise de son, Loïs Moreau, Guillaume Roux et Sofiane Actib. Mixage, Guillaume Ledu. À la réalisation, Hélène Biziot.